écran radiophonique que vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. droit de faire ce que je veux des derniers milliards qui me restent. Cet argent est à moi. Il lui dit, tu dilapides l'argent de la famille, et lorsque tu seras morte, il ne restera plus rien. Il lui dit, si, il y a mon petit-fils, et lui aura plus que toi. Il lui dit furieux, tu veux me déshériter ton fils? Elle lui dit, je fais ce que je veux, et puis toi, tu veux déshériter ton petit-fils? Il lui dit, parce que tu me déshérites. La femme d'Albert n'a rien dit, mais elle est furieuse. Jeanne leur dit, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Vous pouvez vous en aller. C'est ce qu'ils font. Elle raconte ce qui s'est passé à Adrien et lui dit, fais attention à ton oncle. Lui se dit, à David. Et à David. David ne lui demande plus des comptes et Adrien a compris pourquoi. La pitié de Jeanne et a honte du rôle qu'il joue parce qu'il aime Jeanne. La jeune fille parle de Jeanne que d'une vieille vache. Il lui dit furieux, elle est très bonne. Je n'aime pas que tu parles comme ça de ma grand-mère. Adrien se sent impuissant contre les gens qui cherchent à faire du mal à Jeanne. Il aimerait fuir lui aussi. Adrien se sent trop près de la jeune fille. Ils sortent souvent ensemble. Les parents ont appris que leur jeune fille sort avec un Forbini. Et ils en sont très heureux. Ils en parlent à tout le monde. Ce qui irrite Jeanne. Elle dit à Adrien, tu es trop jeune pour fréquenter une jeune fille sérieusement. Lorsqu'elle voit ses amis, elle leur dit que cette chose a été lancée par des gens qui aimeraient bien qu'Adrien fasse entrer la jeune fille chez nous. Mais c'est faux. Et puis Adrien est trop jeune. Adrien décide d'arrêter tout ça. Il essaye de partir, comme ça, à la sortie des cours. C'est ce qu'il fait. Oui, il en a assez de cette vie, de tous ces faux semblants. Il veut tout quitter. Là, ne sachant pas où aller, il va au parc Monceau et s'assoit sur un banc. Il voit un homme de 60 ans, maigre, cheveux blancs, l'air triste, habillé d'un costume gris foncé. Marcher lentement et regarder la nature. Puis l'homme s'assoit sur un banc. Adrien se lève. Il ne sait pas pourquoi, il se met à marcher. Il marche pendant un quart d'heure. Et ses pas le ramènent vers le banc où il était assis. Comme le banc est occupé par des personnes, alors Adrien s'assoit à côté de l'homme qui s'apprête à quitter le banc. Et Adrien lui demande, comment faut-il faire pour aller à la gare? L'homme sort de sa torpeur et lui demande, pourquoi la gare? Adrien lui dit, pour prendre le train? L'homme le regarde bien et lui dit, partir comme ça, vous fuguez. Adrien veut s'en aller, mais l'homme lui dit, qu'importe, moi aussi. Puis il lui dit, puisque vous êtes un inconnu et que c'est le hasard qui vous a mis sur ma route, je vais vous dire, c'est que j'ai décidé de me suicider cette nuit. J'ai tout préparé, mon testament, nettoyé chez moi, et je suis mis même propre. Je trouve que c'est plus propre de mourir en pleine nature. C'est pour ça que je suis ici. Là, j'ai décidé, c'est de mourir, sans mélancolie, ni dépression, calmement, tranquillement. Pourquoi ? Parce que j'ai pris cette décision. Alors, il ne me reste plus qu'à me laisser mourir. Je ne suis pas en colère, même très calme. J'ai jamais été aussi calme. Malheureusement, vous êtes mis entre moi et mon projet. Ce soir, je ne peux pas. Un autre soir. Dommage. Et vous ? Adrien, à cause de ce que a dit l'homme, lui parle avec confiance de ses ennuis. Cela ne l'a pas troublé que l'homme veut se donner la mort parce que lui, il lui a présenté la chose d'une façon tout à fait naturelle. Une fois qu'Adrien lui a raconté son histoire, le vieux lui dit « Voilà ce que c'est de ne pas savoir qui l'on est. Et vous voulez partir et quitter une identité étant peut-être la vôtre. Enfin, puisque nous sommes comme ça, tous les deux, et que vous savez sans doute, que vous avez sans doute faim, je vais vous mener au restaurant. Pas chez moi, parce que je ne peux pas vous faire entrer chez moi. Après être parti de chez moi, j'ai jeté les clés dans la Seine. Je pourrais demander à un serrurier, mais j'ai plus de papier, rien, juste un peu de monnaie. Je suis à la rue comme vous. » Et ils se lèvent tous deux, sortent du parc. Le vieil homme le mène à un restaurant boulevard de Courcelles, qui est un restaurant encore ouvert malgré la pénurie. C'est un restaurant moderne de grande classe. Après avoir commandé leur repas, ils mangent de bon appétit tous les deux, l'un face de l'autre. Le vieux lui dit « Je suis auteur. J'étais en train d'écrire une histoire un peu comme la vôtre. » Adrien lui dit « C'est bizarre que vous écriviez une histoire un peu comme la mienne. Mais il est vrai que tout ce qui m'est arrivé peut donner lieu à un roman. » Et Adrien lui demande « Puisque vous êtes romancier, donc vous avez un but dans la vie et ne devez pas être malheureux. Alors pourquoi vouloir mourir ? » Le vieux monsieur lui dit « Oui, bien sûr, j'écris. Mais la vie m'a tout pris. Et puis si j'écrivais, c'était pour oublier ma vie que je n'aime pas. » Adrien lui dit « Je comprends. » Puis une fois qu'ils ont fini de manger, ils sortent du restaurant. Adrien lui demande « Quelle direction je prends pour aller à la gare ?» La plus proche, le vieil homme lui montre comment il faut faire pour aller à la gare Saint-Lazare. Et le vieil homme le sait, le laisse en lui disant « Adieu et bonne chance !» Adrien s'éloigne. Il n'y a presque personne dans les rues. Le vieil homme marche d'un bon pas. Un homme court derrière lui, le rattrape et lui demande « Que vous a dit ce jeune homme ? » Le vieil homme lui demande « Qui êtes-vous ? » L'homme lui dit qu'il est policier et que le jeune homme est malade. Le vieil homme lui dit « On m'a simplement demandé comment aller à la gare Saint-Lazare. Mais qui êtes-vous vraiment ? Avez-vous votre carte de police ?» L'homme sort un couteau et lui donne un coup dans la poitrine. Le vieil homme tombe. L'homme s'en retourne tranquillement. Ça s'est passé sans que personne ne s'en rende compte car les gens étaient pressés de rentrer. Puis l'homme retourne à sa voiture. C'est le chauffeur de Jeanne. À Adrien arrive à la gare. Une fois dans la gare, il cherche quel train il pourrait prendre. Il voit qu'il court à lui, le chauffeur de Jeanne. Adrien court, il a peur. Il ne veut pas retourner là-bas. Le chauffeur le rattrape, le tient bien par le bras pour éviter qu'il s'en aille et le mène à la voiture. Adrien crie, essaye de sortir son emprise, lui dit qu'il ne veut pas retourner là-bas, qu'il n'est pas Adrien. Le chauffeur lui dit, c'est madame qui veut vous revoir. Et il est ramené penaud à Jeanne. Jeanne lui dit furieuse, tu voulais encore partir? Tu ne m'aimes pas. Adrien lui dit, si je vous aime, j'aime, et c'est à cause de ça que je ne veux fuir. Je vous aime, mais je joue un rôle pour vous détruire. Il parle de David, de son plan, etc., qui n'est pas Adrien, mais Cyril, etc. Et la tête qui lui tourne, elle lui dit, je ne comprends rien. Tu lui ressembles et tu sais tout. Adrien lui dit, non, j'ai été formé comme un robot. Ils en veulent à votre fortune, rien d'autre. Et si je suis ici, c'est pour les aider. La porte s'est ouverte. C'est la secrétaire. Jeanne devient toute blanche et lui dit, je verrai ça demain, allons nous coucher. Adrien obéit. Il se demande ce qui va se passer. Adrien, le lendemain, apprend que Jeanne est au lit. Elle n'est pas bien du tout. La secrétaire lui permet de la voir une minute.
Entrez.
Il entre dans la chambre. Il s'approche d'elle, ému. Elle est au lit. Elle semble très faible et fiévreuse. Il voit qu'elle a des boutons rouges sur le visage. Adrien est effondré. Il lui dit, je t'aime, tu sais. Je ne veux pas te faire de la peine, ni du mal. Elle ne peut pas lui répondre. Elle a trop de fièvre. La bonne vient. Elle dit, il faut maintenant la laisser, monsieur. Elle doit se reposer. Adrien sort, effondré. La secrétaire fait venir un médecin, un des amis à elle. Le médecin l'examine et dit, il faut qu'elle reste au lit. Dans la journée, Adrien veut la voir, mais la secrétaire refuse qu'il la voie. Elle lui dit, le médecin ne veut pas qu'elle voie qui que ce soit. Elle doit se reposer. David vient la voir et apprend qu'elle est malade. Il veut la voir, mais Jeanne refuse de le voir parce que sa maladie l'a rendue trop laide.
Il y va tout de même. Lui dit, tu ressembles à une écrevisse. Pourquoi n'avez-vous pas la peste comme tout le monde? Maintenant, vous voilà bien tranquille et vous ne pourrez pas vous défendre contre qui que ce soit. Il rit et la laisse. Elle est furieuse. Mais elle a des difficultés à parler et puis trop faible. David dit à Adrien, reste bien sage, attention, ne fais pas de fugue. David demande à la secrétaire, pourquoi n'a-t-elle pas la peste? Elle lui dit, il faut que nous ayons le temps de préparer la suite, monsieur. Albert, qui a appris par le chauffeur que sa mère est malade, vient la voir. La secrétaire lui parle passage et lui dit, vous ne pouvez pas la voir, madame est trop malade. Il est furieux, la pousse et entre dans la chambre. Il voit sa mère effarée dans l'état où elle est. Pourquoi n'a-t-elle pas fait venir le médecin? La secrétaire lui dit, ce n'est pas grave. Et puis, elle a vu un médecin. J'ai fait venir un spécialiste et pas celui qu'elle voit d'habitude. Il a dit que ce n'était rien. Albert Furieux lui dit, qu'est-ce que vous en savez? Faites venir un médecin qui l'examine vraiment. La secrétaire furieuse fait venir un médecin. Qui lui dit, c'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. On ne peut pas empêcher Adrien d'aller à l'école. Ce serait mal vu. Puis bientôt, ça va être l'examen du bac. Car pour les objectifs, pour la famille et David, c'est indispensable qu'il ait. Et si l'on apprend qu'il ne va pas à l'école, cela risque de faire un mauvais genre. Pour éviter qu'il ne s'enfuit, c'est le chauffeur qui l'amène et le ramène. La jeune fille lui demande, pourquoi? Il lui dit, je suis prisonnier. Alors, il lui raconte tout, qu'il n'est pas Adrien, mais Cyril, qu'on lui a fait prendre de force la place du petit-fils de Jeanne et que Jeanne est très malade et elle aussi est prisonnière. Tout ça pour prendre la fortune de Jeanne. Elle lui dit, et comment savoir ce que tu dis est vrai? Il lui dit, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner de preuves. C'est ça qui est terrible. Elle réfléchit et lui dit, il y a l'ADN? Il lui dit, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Et celui de grand-mère, comment l'avoir? Elle lui dit, bien sûr, ce n'est pas possible pour le moment. Il lui dit, je suis prisonnier, je ne peux rien faire. Elle lui demande, même pas sortir avec moi? Il lui répond, non, même pas. Elle le dit à sa mère qu'elle ne peut pas voir Adrien parce que l'on en empêche. Sa mère qui veut que sa fille voie Adrien décide d'aller voir la grand-mère. Avec de grandes difficultés à cause des domestiques et de la secrétaire qui ne veulent pas qu'elle voie la grand-mère dans l'état où elle est. Elle leur dit, je fais ce que je veux. Alors il la laisse malgré tout aller voir la grand-mère. De toute façon, on ne risque pas grand-chose dans l'état où elle est. Là, elle voit la grand-mère allongée dans son lit, fiévreuse, le regard dans le vague, le visage plein de boutons. Elle lui dit, « Je m'excuse, madame, de vous déranger. Je suis la mère de la jeune fille que votre petit-fils fréquente.
et je suis venu vous demander la permission que vous ne puissiez pas interdire votre petit-fils de voir ma fille. Ils s'aiment tous deux et c'est très charmant. La grand-mère, qui peut à peine parler, lui dit « Ce n'est pas moi qui empêche Adrien de voir votre fille, ni Adrien qui ne veut plus la voir. Adrien n'est pas prisonnier. » La mère gênée, parce qu'elle voit que la grand-mère est très mal, lui dit « Je m'excuse de vous avoir dérangé, madame, pardonnez-moi et merci de m'avoir reçu. » Et elle la quitte en sachant quoi penser. Mais cela ne change rien. Adrien ne peut pas sortir. Alors un jour, de cours où il sort avant l'heure, il décide d'en profiter pour marcher dans les rues de Paris en se demandant ce qu'il pourrait faire avec la jeune fille. Il voit en sillonnant la rue les services d'hygiène et d'ordre. Parce que les gens ne veulent pas être embarqués, parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. Alors, il assiste à quelques révoltes dans les rues, faites par des gens qui n'ont rien et ne veulent pas être embarqués. Adrien se dit, une histoire à côté de tout ça, qu'est-ce que c'est? Rien. Il en parle à la jeune fille lorsqu'il la revoit et lui dit « Non, mais toi tu as le droit à ta liberté, même si les autres sont malheureux. Cela ne doit pas empêcher la justice pour tous, et puis la maladie est pour tout le monde, même pour les riches. » Il répond « Tu as raison. » Puis s'en retourne. Il s'en retourne vers la sortie de l'école comme s'il avait fini des cours à l'heure. La jeune fille dit à sa mère qu'Adrien est bien prisonnier. Sa mère lui dit « C'est parce qu'il ne veut pas te revoir. La famille ne doit pas vouloir de nous. Et puis, vous êtes trop jeune pour vraiment vous fréquenter. » La mère trouve que c'est dangereux que sa fille fréquente le jeune homme. Il faut qu'il ne la voit plus. Il faut éloigner la jeune fille. Un jour, un matin, sa mère lui dit que le chauffeur va l'amener au lycée puisqu'il y passe devant. Elle entre dans la voiture. Et là, elle est menée en pension en Suisse. Interdiction de téléphoner, d'écrire, de sortir, jusqu'à sa majorité. Elle est furieuse. Il ne la reverra plus. Il est furieux parce qu'il se dit qu'on l'a éloignée pour lui. Il la pleure en se disant « Pauvre Florence, elle est prisonnière comme moi. » Il la voit dans ses pensées, mince, le visage fin, avec un beau sourire et se dit furieux « Je ne la reverrai plus !» La grand-mère se sent mieux, se lève et peut reprendre ses affaires. Mais elle se souvient de ce que lui a dit Adrien et reste sur ses gardes. En se promenant dans le parc avec Adrien, elle lui dit « Qui que tu sois, tu seras à mes yeux mon petit-fils adoré. » L'autre a dû le tuer. Albert apprend qu'elle va mieux. Il va la voir. Elle le reçoit au salon. Il la trouve bizarre parce qu'elle se méfie de lui. Il lui dit faut mettre dans une maison Adrien qui risque de reprendre ses crises comme avant. J'ai appris qu'il avait refugué. C'est bien la preuve qu'il risque de reprendre des crises qui peuvent être violentes pour les autres. Elle lui dit, non, il s'agit. Il n'est plus le même. Tu peux t'en aller. Je ne veux plus entendre sur ce sujet. Il s'en va furieux. David vient la voir. Elle le reçoit sèchement. Elle lui dit je ne peux plus rien faire pour vous. Il est furieux. Il lui dit avant de la quitter. Je ne m'en fais pas. Je sais que tu m'aimes, la garce, et ce que tu aimes. Malheureusement, la grand-mère, sa santé se détériore et oublie ce que lui a dit Adrien. Peut-être à cause de ce qu'on lui donne pour qu'elle oublie. Elle se recouche. Adrien se sent seul. Il n'a plus sa petite amie et Jeanne ne parle presque plus. Il est entouré de geôliers. le laboratoire privé trouve dans la peste un produit étrange, quelque chose de pharmaceutique, quelque chose qui démontre qu'elle vient d'un laboratoire et non de la nature. Donc c'est une épidémie créée artificiellement par l'homme. Le directeur de recherche épidémique en parle au ministre de la Santé. C'est un homme grand, fort, chauve, le regard doux. Il est habillé d'un costume beige d'été. Le ministre lui demande « Comment le produit a-t-il été fait ?» Le directeur des laboratoires Pasteur lui répond « Avec un mélange de produits chimiques. » Le ministre demande « Est-ce que l'on peut attaquer et détruire ce produit ?» Le directeur des laboratoires Pasteur lui répond « Oui. » Dès que nous aurons identifié ce produit, le ministre lui dit, ne dites rien à personne. Adrien continue ses études. Il n'a rien d'autre à faire. Lorsqu'il voit David, parce que David va le voir à la sortie de son lycée et lui demande « Pourquoi me maintenez-vous prisonnier ? N'ayez plus besoin de moi, puisque ma grand-mère est malade. » David lui dit « Tu vas devenir l'héritier et j'aurai besoin de tes services pour mes affaires, comme le faisait Jeanne. Donc tu restes chez elle. Elle n'en a plus pour longtemps, la vieille. » Adrien est furieux. Il est pris de fureur, essaye de fuir. Oui, essaye de fuir. Il court jusqu'au portail, mais on le rattrape. C'est le chauffeur qui le rattrape et l'enferme dans sa chambre. Tous les domestiques ont changé. Ils sont au service de David. C'est la nouvelle secrétaire qui les a choisis. Albert est furieux. C'est juste si on le laisse voir sa mère. Il sent une machination. Il en passe la face à sa femme qui lui demande « Et le petit ?» Il lui dit « Je ne le vois pas. » Elle lui dit « Tu dois en parler à la police !» Il va au commissariat expliquer son histoire. « Vous vous rendez compte que je ne peux même plus voir ma mère ? J'ai l'impression qu'elle est prisonnière de tous ces gens. » Le commissaire lui dit « Nous allons faire une enquête. » Et un matin, sonne au portail des policiers en civil qui demandent à voir Jeanne. On est obligé de laisser voir Jeanne. Jeanne dans sa chambre au lit. Il la trouve très fiévreuse, hélas. Un des policiers lui demande « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Elle lui dit « Non, j'en ai pas besoin, monsieur. Merci. » Elle refuse parce qu'elle a peur pour Adrien. Le commissaire convoque Albert et lui dit qu'il ne peut rien faire puisqu'elle refuse de l'aide. « Vous comprenez, elle est adulte, donc elle fait ce qu'elle veut. » Albert lui dit « Elle n'est pas consciente. » Et elle a besoin de tutelle. Le policier lui dit, ça ne me concerne pas. Voyez un avocat. Il va voir son avocat qui lui dit, nous avons déjà échoué deux fois. Albert lui demande, que devons-nous faire? L'avocat lui dit, il faut faire une enquête. Et après, l'accuser, parce qu'il profite de la faiblesse de votre mère pour lui soutirer une fortune. Alors il fait faire une enquête, comme il l'a déjà fait, par un détective privé. On apprend, comme toujours, son enfance isolée d'une famille riche, de parents autoritaires, la mère insouciante, l'enfant est délaissé, le père est mort d'une longue maladie. Sa mère se remarie avec le médecin qui a soigné son mari. Là, le fils a été mené de pension en pension. Ensuite, les histoires de femmes, des violences, l'argent qu'il leur soutirait. Il a appris tout ça en feuilletant les magazines Peuple et en interrogeant les personnes qu'il fréquentait. Alors le détective est allé poser des questions aux femmes qui l'ont connu. Et on dit aussi qu'il était très violent et puis une fois qu'elles étaient ruinées, il les laissait tomber. C'est un aventurier escroc qui ne fait rien. Une fois que l'enquête a été faite, Albert présente au commissaire qui lui dit « Faut porter plainte contre cet homme qui est très dangereux. » C'est ce que fait Albert. Albert va rendre visite à sa mère. Elle lui apprend les escroqueries de David et qu'il a porté plainte contre lui. Elle est furieuse et lui dit « Je fais ce que je veux de mon argent. Et puis toi, tu n'as pas été délaissé. Tu as reçu suffisamment, toi aussi. » Il retourne voir son avocat. Qui lui dit « Elle est majeure, on ne peut rien faire. Elle a toutes ses capacités mentales. Et puis, elle a les papiers des avocats, des examens, des dernières fois. » Albert est furieux. Il va la voir et lui demande. Te sens-tu entièrement libre? Elle lui dit. Non, tout va bien. Il lui demande. Et Adrien? Elle lui dit. Tu peux lui parler, il te dira. Ce que je ne peux te dire. Il va voir Adrien dans sa chambre, qui est sous bonne garde. Albert lui pose des questions sur sa mère et sur David. Adrien, qui a peur pour sa grand-mère, car s'il parle, les autres vont lui faire du mal, alors lui dit « Tout va bien. » Albert lui dit « Tu as bien changé, tu t'es assagi, tu n'es plus violent. » Adrien lui dit « J'ai tout à fait bien. » Albert raconte à sa femme, qui ne comprend pas grand-chose, mais se dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle va chez Jean. Elle voit que les domestiques sont tous des nouveaux. Elle demande à la grand-mère. Vous allez bien? Tout va bien? Jean lui dit. Oui, à part ma santé, tout va bien. Elle demande à Adrien aussi. Oui, tout va bien. Merci, tante. Elle lui dit. Si quelque chose ne va pas, il faut me prévenir. Surtout pour ta grand-mère. Et elle retourne chez elle. Là, elle retrouve son mari et lui dit « Il y a quelque chose d'étrange et de pas normal. Ça paraît trouble, très trouble. » une lettre qui n'est pas envoyée par la poste, mais mise la matinée dans la boîte aux lettres. Cette lettre est pour la grand-mère. C'est une lettre anonyme où il est écrit qu'elle a tué les parents d'Adrien. Jean se demande comment on le sait et qui le sait. Elle a peur qu'Adrien le sache. Elle reçoit de plus en plus de lettres qui sont envoyées de la même façon tous les matins et toujours qui disent la même chose. Comme les lettres ne sont pas envoyées par la poste, elle surveille la rue de sa chambre pour voir les gens passer. Un matin, elle voit qu'il dépose une lettre à la boîte aux lettres, une femme habillée avec une robe noire. On ne voit pas son visage parce qu'il est caché par un large chapeau noir. Cette fois, la lettre est pour Adrien. On la lui a donnée. Il ne comprend pas ce que veut dire la lettre. Et demande des explications à sa grand-mère qui lui dit. Ce sont des calomnies qui sont faites pour semer le trouble entre nous. Adrien ne sait plus. On accuse Jeanne, sa grand-mère, de la mort de ses parents. Les lettres continuent à se multiplier. Pour Jeanne, Adrien, les domestiques, Albert, etc. Albert va voir sa mère avec une de ses lettres. Elle est toujours dans sa chambre allongée. Il lui dit: cela risque de créer des ennuis, tout ça. Qui est au courant de cette affaire? Elle lui dit: personne. N'en ai parlé qu'à toi. Ça ne peut être que toi. Il lui répond: tu es folle. Je ne ferai jamais ça. Elle lui dit: je n'aurais jamais dû te dire ce que j'ai fait. Mais j'avais du remords. Il lui dit: j'ai jamais dit à personne. Mais si l'on sait que tu as tué ton fils parce qu'il menaçait de dire que mon père appartenait à un groupe occulte très dangereux et qu'il leur devait de l'argent, qu'il allait dévoiler des choses peu républicaines de certains hommes politiques, tu savais que si l'on savait ça, ce serait la ruine de la famille. Ton mari serait mis en jugement. Elle lui dit: et dire que mon fils, dès qu'il a appris ça, a voulu me faire chanter pour prendre sa place. Et pour cela, il voulait m'éliminer en me faisant chanter, en disant que j'ai cherché à éliminer mon mari parce qu'il risquait d'être disqualifié pour sauver ta fortune. Il voulait l'éliminer. Albert lui dit: pourquoi ne pas lui donner sa place? Elle lui dit: parce qu'elle me revenait de droit. Moi, parce que j'étais une femme, j'ai jamais été pendant la vie de ton père qu'une postiche. Je voulais ma revanche. Il n'était rien, et pourtant je me sentais tout aussi fort que lui. Il m'avait mis si profondément sous son emprise que cette force qui était en moi était cachée sous les humiliations qu'il me faisait. Mon mari s'est servi de ma fortune personnelle pour s'enrichir tout en me maintenant entre ses griffes. J'ai eu envie de le tuer. Je ne n'osais pas par peur d'être prise. Mais de ne pas être à la hauteur pour diriger tout ça. Puis lorsqu'il est mort, je me suis sentie soulagée d'un grand poids et tout d'un coup plus forte. J'attache ce moment-là que mon fils m'a fait chanter. Il ne voulait pas. Après, mon mari est sous l'emprise de qui que ce soit. Non, je ne voulais pas. Après, mon mari est sous l'emprise de qui que ce soit, même de mon fils. Durant des années, j'ai été esclave d'un homme. Je voulais plus être esclave de qui que ce soit. Alors j'ai précipité. Je ne savais pas qu'il allait emmener avec eux le petit. Lorsque je les ai vus partir, je n'ai pas hésité. Je n'ai rien fait.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.